voix nue. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre Odile Deck. Ce soir, l'architecte est mort, vive l'architecture.
Bonsoir Odile Deck.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier entretien d'Avoix Nue déjà. Un entretien que j'aimerais consacrer à l'enseignement parce que c'est quelque chose qui a une place très importante dans votre parcours. Vous avez commencé à enseigner extrêmement jeune l'architecture Odile Deck.
Pas extrêmement jeune puisque j'ai commencé en 90, donc c'était pas déjà si jeune que ça. C'était pas au sortir de l'école en tout cas parce que je ne voulais pas démarrer l'enseignement aussitôt. Considérant qu'il fallait d'abord que je prouve que je pouvais être architecte avant de pouvoir me donner la facilité que pouvait m'apporter l'enseignement, puisque ça me donnait des revenus.
C'était à l'école d'architecture de Grenoble, c'est ça?
Ça, c'était le premier workshop que j'ai fait, oui. Et ensuite, aussitôt après, Paul Virilio, dont nous avons déjà parlé, m'a appelé pour venir faire une conférence à l'école spéciale et ensuite m'a proposé de venir enseigner à l'école spéciale.
L'école spéciale d'architecture à Raspail,
qui est
une école privée.
C'est une école privée. C'était, jusqu'à présent, la seule école privée à Paris.
Ensuite, vous avez enseigné à la Barclay à Londres, à Columbia, aux Beaux-Arts de Vienne. Vous avez continué à faire des workshops dans le monde entier. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'enseigner en travaillant ?
L'enseignement, c'est quelque chose qui vous enrichit beaucoup. Parce que être en relation avec des gens beaucoup plus jeunes, c'est toujours intéressant. Ça vous amène à débattre, à vous affirmer ce que vous pensez, à leur faire comprendre ce en quoi vous croyez, vous. Et à leur permettre de leur transmettre quelque chose et à leur permettre à eux d'éclore et découvrir à la fin d'un semestre, puisque c'est par semestre qu'on enseigne, qu'ils sont capables de faire à la fin du semestre des choses qu'ils n'imaginaient pas qu'ils pouvaient faire au début du semestre. Et c'est là que vous avez la plus grande satisfaction, c'est quand vous avez un sourire d'étudiant qui découvre qu'il a fait des choses qu'il ne pensait pas pouvoir faire au départ, que ce soit un dessin, que ce soit un projet, que ce soit un aboutissement d'une idée ou quoi que ce soit. Et ça, c'est formidable. Et en même temps, c'est drôle parce qu'on y va quelquefois en traînant les pieds. On n'a pas envie d'y aller parce que c'est fatigant, parce que ça peut vous prendre la tête toute la journée. Et quand vous en sortez, vous êtes quand même heureux. Et vous avez repris de l'énergie, toujours. C'est très très surprenant. Donc ça vous apporte autant que vous donnez. C'est ça qui est formidable.
J'avais envie de terminer là-dessus parce que, et je vais le dire d'emblée, vous avez ouvert une école à Lyon qui, je crois, déménage à Paris.
Absolument.
Sous les locaux de l'agence dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et puis parce que vous avez dirigé de 2007 à 2012 l'école spéciale d'architecture, cette fameuse école
tout
de Raspail.
J'y ai effectivement enseigné pendant 15 ans et ensuite je suis devenue la directrice de l'école pendant 5 ans. Puis je l'ai quittée parce qu'il y avait une sorte de retour de bâton qui, par rapport à tout ce que j'avais fait, la façon dont j'avais fait bouger l'école, qui a fait que je ne pouvais plus progresser, donc j'ai préféré m'en aller.
Comment est-ce que vous avez essayé de la faire bouger, cette école? J'ai des idées. J'ai beaucoup parlé avec certains de vos anciens étudiants. Vous avez introduit l'anglais.
J'ai introduit le côté international de l'école, absolument.
Vous avez introduit des cours d'écriture.
Oui.
Vous avez introduit des lectures, ce qu'on appelle lecturer en anglais, des interventions. Oui. Comment est conçu aujourd'hui l'enseignement de l'architecture en France et dans cette école quand vous y êtes arrivé? Qu'est-ce qu'on enseigne en école d'architecture?
Mais on enseigne l'architecture. Quand je dis ça, c'est basique, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on enseigne. En fait, je ne sais pas ce que ça veut dire enseigner, parce que je pense que on n'a pas beaucoup de choses à apprendre aux étudiants. On a plutôt à les aider à apprendre par eux-mêmes, ce qui n'est pas forcément la vision de tout le monde. Et c'est pour ça que les écoles dans le monde entier, pas seulement en France, aujourd'hui, sont des écoles qui ont un peu la même façon d'enseigner qu'on enseignait au 19e siècle, au 20e siècle et au 21e siècle, on continue. Et c'est ça qui me gêne le plus. Parce que, quelque part, c'est un savoir un peu qui ex-cathédra, qui descend vers les étudiants. Et après, mais on sait qu'aujourd'hui, que les étudiants n'écoutent plus. Quand vous êtes dans une salle et que vous devez écouter un professeur qui vous parle, vous n'écoutez pas pendant la moitié du temps. Ce qui rentre par une oreille sort de l'autre côté. Et c'est ce que Michel Serres, quand dans son livre Le Petite Poussette, explique très 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 bien. C'est un livre merveilleux pour ça, pour comprendre comment sont les nouvelles générations. Et il y a des cours où il y avait dans cette école, comme dans beaucoup d'écoles, il y a des cours de mathématiques, de géométrie, il y a des cours d'histoire, de l'art et d'architecture, il y a des cours de sociologie, mais ça dépend des écoles. Il y a des cours parfois avec des philosophes, il y a quelquefois des artistes qui viennent faire de l'enseignement, et puis il y a des architectes, et on apprend aussi dans ce qu'on appelle le studio ou l'atelier, là où on fait du projet. Et où pendant tout le temps d'un semestre, ça dépend de la durée de l'enseignement, l'étudiant doit faire un projet que son professeur, à qui lui est attitré, par rapport à ce groupe d'étudiants, vient voir régulièrement l'avancement et la progression du projet. Donc ça, c'est l'enseignement, je dirais, de façon générale, globalement dans le monde, qui devient en plus aujourd'hui de plus en plus professionnalisant, partant du principe que, puisqu'on va construire derrière et que dans les écoles d'architecture, on préparerait uniquement à fabriquer des architectes, il faut leur apprendre la profession. Alors que je pense, moi, le contraire, qu'il ne faut pas forcément leur apprendre à être des professionnels de l'architecture ou donc des architectes, mais qu'il faut leur apprendre l'architecture, ce qui est autre chose.
Qu'est-ce que c'est l'architecture, alors ?
L'architecture, pour moi, c'est une discipline et une culture. C'est une culture de compréhension du monde, c'est une culture d'action dans le monde, c'est une culture générale. Parce que c'est une discipline qui va englober toutes les disciplines avec elle. Puisque quand on travaille sur un projet, quelle que soit la nature du projet, et pas seulement dans le projet d'architecture, mais particulièrement dans le projet d'architecture, il faut convoquer d'autres disciplines. Il faut convoquer de la sociologie, de la science, des mathématiques, de la géographie, de la géologie, de la philosophie, de l'art, etc. Et donc il faut apprendre à pouvoir absorber et synthétiser toutes ces disciplines dans une question qui vous est posée. En même temps, pour faire une proposition derrière. Donc, il faut être quelqu'un capable de faire une proposition. Et de cette proposition, de la rendre réaliste. Ou réelle, selon les cas. Donc, c'est assez complexe comme processus. Ça prend du temps pour l'apprendre. Et en même temps, ça vous permet, avec cette façon de penser et cette façon de pouvoir agir, d'agir pour n'importe quoi. Parce que vous n'êtes pas obligé de devenir architecte pour appeler pour faire ça.
C'est ça que vous dites, que vous aimeriez former des gens à l'architecture, voilà, qui ne deviennent pas nécessairement architectes, mais pourraient devenir autre chose après.
Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'aller dans toutes les écoles d'architecture. Si vous demandez aux étudiants, vous voulez devenir architecte, il n'y a pas la moitié des étudiants qui lèvent la main, parce que ce n'est pas le métier qu'ils veulent faire. Il y en a qui veulent devenir scénographe, il y en a qui veulent travailler dans le théâtre, il y en a qui veulent devenir. Ils ne savent pas. Il y en a qui se disent qu'ils vont faire de l'art contemporain. Il y en a qui vont faire autre chose. Mais c'est ça qui m'a intriguée beaucoup pendant tout le temps où j'enseignais, c'est que justement les étudiants ne disent pas toujours qu'ils veulent devenir architectes. Et quand on parlait il y a quelques jours de UP6 et de la Villette, en fait, sur les 1500 ou 2000 étudiants qu'il y avait à mon époque, on est une petite centaine à peine à être devenus architectes. Donc les autres, ben, il faut autre chose avec ça. Mais ça vous forme vous-même. Et avec cette formation que vous avez pour vous-même, vous savez faire autre chose.
Quand vous êtes arrivée à la tête de l'école spéciale d'architecture en 2007 au DILDEC, justement, qu'est-ce que vous avez voulu introduire comme changement ?
J'ai été élue sur un projet. Et ce projet portait justement le côté internationalisation de l'école, l'ouverture vers le monde, la transformation vers les nouveaux outils aussi, en montant des ateliers de fabrication autres que simplement l'atelier bois traditionnel de la maquette traditionnelle d'architecture, l'ouverture à la ville avec une galerie d'exposition, la possibilité de travailler en relation avec d'autres écoles dans le quartier, plein de propositions que j'ai, puis la reconfiguration d'un certain nombre d'espaces dans les locaux, en particulier la bibliothèque qui était dans un endroit absolument immonde et que j'ai complètement transformé, pour donner plus de visibilité, plus d'ouverture, plus de temps d'ouverture aux étudiants. Enfin, plein de choses comme ça qui a changé effectivement pendant un certain nombre d'années l'école spéciale.
Vous l'avez quitté, la direction de cette école en 2012 au DILDEC, la direction de l'école spéciale d'architecture. Comment est née l'idée de vous dire que vous aviez envie de faire une école, de fonder une école avec votre propre vision ? Et combien de temps cela a pris pour arriver à une forme réelle ?
En fait, c'est le soir même, du soir de ma démission, où on est allé avec quelques profs boire un verre pour récupérer de ce choc de ma démission. Et que quelqu'un m'a dit, et si on montait une nouvelle école d'architecture ? Et j'ai fait, bah oui, pourquoi pas ? J'ai dit, pourquoi pas ? On peut y réfléchir, c'est pas si compliqué que ça. Je sais un peu comment ça fonctionne maintenant, je sais comment ça marche. Et on a commencé avec un tout petit groupe au départ à travailler là-dessus. Et donc on a travaillé, pour vous dire qu'il y a vraiment 7 jours dans la semaine, le dimanche après-midi, on se réunissait ici, dans mon agence. Et on travaillait pour réfléchir pour ce qu'on allait faire comme école. Et ça a pris 2 ans. Et 2 ans parce que le temps de monter le projet, le temps de trouver l'endroit, le temps de discuter pour les conditions de l'installation de l'école, ça a pris 2 ans, ce qui est assez court finalement. Et c'est vrai que si au début, on a commencé à penser une école telle qu'on la connaissait, petit à petit, on a dérivé. Et j'ai fait beaucoup dériver parce que moi, pendant ce temps-là, je continue à voyager beaucoup dans le monde, à faire des conférences un peu partout, dans beaucoup d'écoles d'architecture. Et à chaque fois, j'allais voir quelles étaient les personnes qui voulaient faire changer les choses, comment, vers quelle orientation. Puis en même temps, je lisais beaucoup de choses à l'époque qui sortaient sur la nouvelle façon d'enseigner, une nouvelle façon de faire de la pédagogie. Le fait que, par exemple, en Finlande, on n'enseigne plus l'histoire, il n'y a plus de certains cours qui ont disparu, considérant que sur Internet et sur le net, vous trouvez toute l'information. Il suffit après ça d'apprendre à la lire, à la trouver et à l'analyser pour en on va en avoir pour en prendre possession et en faire quelque chose. Et donc toutes ces réflexions qui sont menées un peu partout, étaient menées un peu partout dans le monde, j'étais très à l'affût de tout ça et je lisais beaucoup. Et on a commencé, et je me souviendrai toujours d'un dimanche après-midi, mais finalement ce qu'on va faire, on va faire les Montessori de l'architecture. Et ils m'ont regardé un peu étonné, j'ai dit mais oui, puisqu'on va apprendre aux étudiants à apprendre par eux-mêmes. Et donc, on va complètement changer la pédagogie grâce à ça. Donc, il a fallu qu'on comprenne, qu'on se mette d'accord, qu'on discute. Et petit à petit, donc, on est arrivé à cette idée de repenser complètement le sens même de l'enseignement et la façon dont on est enseigné. Et puis, encore récemment, je continue à lire et à regarder ce qui se passe dans le monde. Et je vois qu'effectivement, on n'est pas la seule à avoir pensé des choses comme ça. Et puis, dans mon école, les enseignants arrivent et vont voir les étudiants. Et ce n'est pas les étudiants qui vont voir leurs profs. Parce que d'habitude, dans les écoles, vous avez des lieux dans l'enseignement où vous allez retrouver un prof. Donc, c'est un groupe d'étudiants qui se déplacent pour aller dans une salle rencontrer leur enseignant. Alors que là, les étudiants sont dans l'école et c'est l'enseignant qui va les voir. Et c'est des enseignants qui m'ont dit ça après la première année ou la deuxième année, qui m'ont dit « Mais quand on arrive dans ton école, on est obligé de changer complètement sa vision d'enseigner. »
Nous allons revenir sur le contenu pédagogique, la manière dont vous voulez recruter ces étudiants pour cette école, Odile Deck. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle du moment où vous avez annoncé que vous lanciez cette école.
Ah.
Lorsque vous avez annoncé que vous ouvriez une école à Lyon, il y a eu un communiqué du syndicat de l'architecture, un communiqué très agressif qui taxait votre école d'élitiste, de superficielle, et qui disait même qu'elle mettait en péril l'équilibre de l'enseignement de l'architecture en France. Comment est-ce que vous avez perçu ce communiqué à l'époque ?
Quand j'ai voulu annoncer mon école, je me suis dit, tiens, je vais annoncer que je crée une école d'architecture. J'ai fait un communiqué de presse et j'ai réuni des journalistes. Bien m'en a appris qu'immédiatement après, j'ai reçu des scuds, effectivement. Et j'ai reçu des scuds parce que on m'a dit que l'enseignement de l'architecture, c'était l'État qui devait s'en occuper, et c'était pas aux personnes privées de s'en occuper. Alors qu'il y avait déjà une école privée, l'école spéciale d'architecture. Mais pour eux, c'était vraiment quelque chose d'à côté. Et que si je faisais une école privée, qui était payante, c'était obligatoirement pour une élite. Et que j'allais déstabiliser avec mon tout petit groupe d'étudiants, que j'allais déstabiliser les 12 000 étudiants français, ce qui me paraît invraisemblable. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est de l'incapacité à penser plus loin? Je pense que c'est extrêmement français, comme façon de réagir. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je ne vais plus en parler, je vais encore une fois de plus faire. Et puis après, on verra bien et ils verront bien ce que ça va faire. Donc, on est resté à Lyon tranquillement pendant 5 ans. Là, maintenant, on remonte l'école à Paris. On la ramène au centre de Paris, dans le Marais, ce qui déjà va être un choc parce qu'il n'y a plus d'école dans le centre de Paris aujourd'hui d'architecture, sauf il reste celle qui est aux Beaux-Arts. Et puis, on va en faire un lieu où on va pouvoir venir débattre, où on va faire venir plein de gens de l'extérieur. Mon école est essentiellement internationale puisque plus de 60%, presque 65% des étudiants viennent de l'étranger. Que nos enseignants sont aussi à peu près à 60% étrangers, et on pourra en faire vraiment un lieu de débat, à nouveau se mettre à penser sur l'architecture.
Parlons du modèle économique de cette école. Donc vous avez combien, 15 étudiants par an ?
Non, je ne peux pas dire qu'il y a 15 étudiants par an. Aujourd'hui, on va atteindre, là, les 35, à la rentrée prochaine, on va atteindre 35 étudiants sur la totalité de l'école, ce qui est rien. C'est vraiment minuscule comme école par rapport aux 1500 qui sont à la Villette et les 2000, les 1000 qu'il y a à Lyon. Enfin bon, c'est pour ça que je n'ai jamais compris pourquoi je leur faisais peur à ce point-là.
Et il y a des frais de scolarité qui sont de
11 000 euros par an.
11 000 euros. Qui correspond à quoi comment est-ce que vous l'avez calculé, ce prix ?
Si j'avais fait un vrai budget au départ, ça devrait être beaucoup plus cher que ça. Un modèle économique, pour démarrer surtout, ça aurait dû être beaucoup plus cher que ça. Mais je n'ai pas voulu faire ça trop cher, donc me caler à peu près sur le bas des écoles de commerce. Parce que je me dis, si les parents sont capables de payer ce prix-là pour des écoles de commerce, pour certaines écoles de commerce, on pourrait peut-être aussi faire ça pour l'architecture. Mais parce que nous ne vivons que des frais de scolarité des étudiants, nous n'avons pas le modèle économique, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a que moi et ces frais de scolarité. Donc il m'est arrivé régulièrement de remettre de l'argent dans l'école, personnellement.
Est-ce que vous entendez qu'on puisse se dire que 11 000 euros par an, c'est une école élitiste ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Mais non, élitiste de quoi ? Mais non, parce que...
Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'investir.
Oui, c'est vrai, mais 11 000 euros. Bon, l'école spéciale, c'est 10 000. Donc je vois pas il n'y a pas beaucoup de différence et ils ont beaucoup plus d'étudiants. Mais en même temps, c'est vrai qu'à l'école spéciale, par exemple, j'avais créé les bourses. J'avais institué le système de bourses pour permettre justement à des étudiants qui avaient moins de possibilités de pouvoir venir. Donc là, comme aujourd'hui, je ne suis pas encore totalement reconnue en France... Pour l'instant, mon diplôme n'est accrédité que par la Grande-Bretagne, donc quand même en Europe, mais que la France ne m'a toujours pas fait l'équivalence, j'ai du mal à pouvoir obtenir que mes étudiants puissent obtenir les bourses publiques, les bourses du CROUS ou des choses comme ça. Et donc j'ai demandé à des personnes privées de m'aider à me financer des bourses. Et ça j'ai déjà obtenu quelques fois des bourses pour mes étudiants. Parce qu'il me paraît essentiel de permettre à des étudiants qui n'ont pas les moyens de pouvoir venir malgré tout.
Y a-t-il une sélection ?
Il y a un dossier. Ce dossier est constitué d'abord d'un portfolio. Même s'ils sortent du bac, ils ont obligatoirement un jour ou l'autre fait des dessins, fait des photos, fait quelque chose. Donc on leur demande de nous envoyer ça. De faire une vidéo de 2 minutes dans laquelle ils se présentent. De la manière dont ils veulent. C'est très intéressant pour voir les personnalités qu'on a, parce qu'on veut choisir des personnes, on veut avoir des personnes qui ont une personnalité. Et ensuite, on leur demande un peu où ils en sont dans leurs études, s'ils en ont fait avant. On regarde ces dossiers et on leur dit, ben écoutez, d'accord, on vous intègre à tel endroit dans le cursus de l'école. Si vous sortez du bac, ben on vous met en première année. Si vous avez déjà fait des études, on regarde ce que vous savez faire et on vous met à tel endroit. Et puis c'est sous réserve que vous y arriviez, autrement on vous rétrogradera ou pas, ça dépend. Et donc c'est une... Mais c'est... on les rencontre pas. On commence à avoir la chance de pouvoir réellement sélectionner actuellement, au bout de 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'en suis déjà à plus de 60 demandes d'entrée dans l'école et on va en recruter qu'une dizaine pour cette année. Donc, on fait une sélection.
Ce cursus, il est donc en 5 ans.
En 5 ans.
Mais on peut rejoindre le deuxième, le troisième niveau.
On peut rentrer en première, deuxième, troisième ou quatrième. L'année du diplôme, c'est particulier, donc on ne peut pas y rentrer. On doit y rentrer obligatoirement en quatrième si on veut faire son diplôme à l'école.
J'ai lu que vous aviez des catégories très novatrices. Neurosciences, nouvelles technologies, action sociale, art visuel, physique.
Oui, parce que c'est l'introduction de disciplines liées au monde contemporain. Puisque les arts visuels, aujourd'hui, il n'y a pas d'architecture, le lien avec les arts visuels est assez évident, c'est-à-dire tout ce qui est art. Les neurosciences, parce que les neurosciences, c'est la connaissance de la façon dont les humains fonctionnent et dont les humains fonctionnent ensemble. Et ça me paraît fondamental de ramener l'humain dans les écoles d'architecture. C'est pas simplement des espaces, c'est pas simplement du fonctionnel qu'on doit amener, c'est des humains. Donc il faut comprendre et avoir la compréhension de l'humain pour pouvoir concevoir des espaces. La physique, parce que on travaille sur la matière, on travaille sur des propriétés physiques quand on construit et quand on fabrique des bâtiments, donc il faut bien que toutes les matières au sens de matériaux doivent pouvoir être étudiées, etc. etc. Donc c'est jamais, c'est pas innocent ces disciplines-là.
Et sur le champ du faire, vous fustigiez ou en tout cas vous regrettiez que dans l'enseignement traditionnel de l'architecture tel qu'il existe en France, on soit dans des cours un peu magistraux théoriques et un atelier maquette qui n'a pas tant que ça évolué, alors que la réalité a évolué. Qu'en est-il dans votre école, Odile Deck ?
Alors, dans notre école, on a beaucoup, beaucoup de machines. On a l'équivalent d'un Fab Lab, dans lequel on a aussi bien des CNC, des imprimantes 3D. Quand les étudiants veulent une nouvelle machine, ils me le demandent et je leur dis, bon, bah, écoutez, pourquoi faire ? Et il y en a récemment là, qui m'a demandé maintenant un microscope électronique. Je dis, bon, d'accord, pourquoi ? Il me dit, bah, parce que je pense que le microbiologique et le biologique dans l'architecture. Je dis, oui, effectivement, c'est intéressant. Donc, peut-être qu'on va lui acheter un microscope. Parce qu'il y en a un jour qui m'a demandé une machine à coudre. Enfin, bon, on a toutes sortes de machines. On a surtout des CNC, des imprimantes 3D, ça, on en a plein. Et les étudiants y ont direct accès, c'est-à-dire qu'ils peuvent y aller directement sans avoir besoin de demander l'autorisation, d'être sous contrôle, parce qu'ils sont autonomes et qu'on leur a appris l'autonomie. Et ils peuvent y aller de jour comme de nuit. Ici, ils n'iront pas de nuit, mais à Lyon, ils pouvaient y aller aussi de nuit. Et donc, c'est parce qu'ils sont libres. L'école est à eux, elle n'est pas à moi. Et c'est important de faire la fabrication, parce que je m'étais rendu compte de ça quand j'enseignais à l'école spéciale à la fin des années 90, début des années 2000, où j'avais un jour demandé aux étudiants de passer à toute vitesse à la fin d'un semestre à l'échelle 1 et de fabriquer quelque chose à l'échelle 1. Et ils avaient adoré ça. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, la confrontation à la réalité était quelque chose qui leur manquait. Et petit à petit, je les réintroduis. Et c'est pour ça que dans mon école, ils ont la possibilité de penser, ils ont la possibilité de concevoir et ils ont la possibilité de fabriquer. Et ils fabriquent. Et ils adorent fabriquer.
Ils adorent fabriquer. C'est très intéressant que vous disiez ça, parce qu'en réalité, on est aussi à un moment où on a l'impression d'assister à un changement de paradigme où l'architecture, le design industriel sont bouleversés par la question de la durabilité, par la question des habitats, mais aussi des objets renouvelables. Il semblerait qu'on puisse être en train de quitter un monde de la production en série, de l'architecture ex cathedra, avec un monde des Fab Labs, un monde des makers, c'est-à-dire des gens qui récupèrent parfois en open source, grâce à Internet, des méthodes pour fabriquer l'objet qui leur sied le mieux, qui leur sied le mieux, pile faite pour eux. Comment est-ce que vous regardez justement l'architecture de demain à l'aune de ces questions ? Qu'est-ce que ces jeunes étudiants que vous avez semble tracer comme voie?
Mais c'est pour ça aussi, par rapport au maker, que par exemple notre espace où il y a toutes les machines, on l'appelle le Creative Maker Space. C'est l'espace de création avec la fabrication. Et par rapport à la question que vous posez, c'est ce qui m'inquiète, ce qui m'interroge le plus aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on est obligé de s'intéresser à l'intelligence artificielle dans les écoles d'architecture, parce que l'arrivée des robots va faire disparaître une partie du champ du travail de l'architecte. J'ai découvert par hasard une société qui existe en Hollande, qui s'est créée il n'y a pas si longtemps que ça, dans laquelle un de mes étudiants de l'école de Harvard, où j'enseignais le semestre dernier, est entré, et où, par l'intermédiaire d'algorithmes, parce qu'il y a dans cette société, il y a 3 architectes et autrement tout le reste, c'est des codeurs, ils sont en train de, par rapport à un problème que se pose un développeur avec un terrain, d'être capable par les algorithmes de faire toutes les faisabilités possibles avec les volumes, les constructions, les surfaces, etc. Donc,
le boulot de l'architecte.
Exactement. Je voyais dans une émission pendant le week-end dernier la possibilité que vous puissiez téléphoner sur un site où il y a derrière les téléphones des architectes qui regardent le terrain que vous avez, qui vous mettent sur votre terrain ou sur la maison que vous venez d'acheter la possibilité de faire les extensions et qui vous envoient les plans. Et après ça, vous n'avez plus qu'à trouver le fabricant et vous avez même le prix. Et après ça, vous n'avez plus qu'à trouver un entrepreneur pour vous le faire faire et qui peut continuer à vous donner des conseils à distance. Donc la relation du client, la relation à l'usager, la relation a complètement changé. Et en même temps, les robots vont prendre la place et les algorithmes prennent la place. Donc ça veut dire quoi devenir architecte demain? Je ne le sais pas. Et j'arrête pas de leur dire, vous ne serez plus jamais architecte comme moi je le suis. Donc moi, mon métier, il est fini, il est en voie de disparition, mais on va le faire différemment. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'interroger sur l'enseignement, sur la pédagogie, et regarder comment on peut donner toujours une valeur ajoutée par l'intermédiaire de ces études. Parce que, comme le dit Bill Gates et plein d'autres gens très intelligents, et en particulier Bill Gates, que je n'aimais pas auparavant, mais que je commence à suivre exactement par rapport à ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que si vous ne vous interrogez pas sur la façon dont vous pouvez apporter de la valeur ajoutée par la création, vous allez disparaître. Et vous n'aurez plus de métier après. Et bien l'architecture, c'est pareil. Les architectes peuvent disparaître. Donc, je ne pensais pas au départ. Il y a quelques années, je pensais que ça ne faisait pas partie des professions qui allaient disparaître. Et maintenant, je pense qu'elle va disparaître aussi. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec l'architecture. C'est pour ça que l'architecte en soi ne m'intéresse pas et que je dis aux étudiants, ce n'est pas nécessaire que vous vouliez devenir des architectes parce que vous allez falloir plutôt comprendre ce que vous pouvez faire avec l'architecture et quelle valeur ajoutée vous apportez. Et bien, la valeur ajoutée, c'est savoir faire en sorte que les gens vivent ensemble. Ça fait partie des choses, savoir proposer des solutions pour leur permettre de vivre mieux. C'est leur permettre de trouver des solutions pour améliorer leurs conditions de vie, améliorer leur façon de socialiser, améliorer leurs conditions de travail, plein de choses comme ça. Parce que ça, nous, avec notre savoir sur l'architecture et notre façon de penser sur l'architecture, on est capable de l'apporter. Mais ce n'est pas forcément faire des plans et construire des maisons.
Nous avons parlé de l'intelligence artificielle. Le futur semble être aussi, Odile Deck, à la maison connectée. Et on a l'impression qu'il pourrait y avoir ces espèces de deux extrêmes, la maison de plus en plus légère qui se fond de mieux en mieux dans la nature, dans l'habitat, faite parfois par les personnes elles-mêmes. Aujourd'hui, on peut télécharger en open source un plan pour fabriquer maison à 10 000 euros en bois. Et à l'autre bout de ça, on a une maison où les enceintes, les lumières, tout est connecté.
Oui, bien sûr.
Et on est dans une dépendance aussi très forte, de plus en plus forte à la technologie. Ça, vous le regardez comment ?
Mais par exemple, dans la tour de Barcelone sur laquelle je travaille, on a tout. Vous pourrez rentrer chez vous avec votre téléphone, déclencher votre serrure avec votre téléphone, changer toute votre atmosphère chez vous avec le téléphone. Tout est effectivement connecté. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser autrement. Si vous voulez faire du logement ou de l'habitation, même du bureau, même des hôtels, de façon encore plus intelligente, mais c'est au détriment d'un certain nombre d'emplois. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que par exemple dans les hôtels, My Hotel à Londres, il y a déjà plus de 15 ans, a commencé à vous dire, vous arrivez avec votre téléphone et vous gérez votre inscription, votre enregistrement, votre déambulation dans l'hôtel avec votre téléphone et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous accompagne. Donc ça veut dire que c'est une perte d'emploi quelque part. Et ça, c'est problématique d'un côté, mais en même temps, on n'y échappe pas. Donc qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus à ça? Donc ça veut dire trouver d'autres fonctions à l'intérieur d'un hôtel pour que les personnes qui y viennent aient envie de se retrouver, de travailler, de se rencontrer, de vivre autrement le fait de venir à l'hôtel. Dans le logement, c'est pareil. Donc l'hyperconnectivité et l'usage de son téléphone, qui est l'outil magique pour tout le monde maintenant aujourd'hui pour faire tout, sauf le café encore, c'est inévitable. Donc je crois qu'on n'y échappera pas. Et en même temps, vous avez des gens qui veulent résister complètement à ça. Donc il y a, mais comme toujours, dans les périodes... Vous savez, dans les années 70 déjà, on pensait le progrès, après les années 60, le futur, les machines, etc. etc. Et bien, il y a des gens qui sont partis dans la Lorraise, dans la Corrèze, dans l'Arzac, élever des chèvres et faire du macramé. Donc, on n'y échappe pas au plus maximum et au moins maximum. Après, la vérité va se situer dans un entre-deux dont je ne sais pas exactement comment il va se définir. Mais quelque part, les robots vont à la fois peuvent nous faire peur et en même temps, je peux nous aider. Après ça, c'est l'usage du robot qui peut être problématique. Comme disait Paul Virilio, que j'aimais beaucoup et qui était un grand ami, en fait, quand on a inventé le train, on a inventé aussi l'accident du train, puisque le train pouvait avoir des accidents, donc des morts. Quand on a inventé l'avion, on a aussi inventé l'accident d'avion. Donc on invente les robots et on aura aussi des accidents de robots. Faut pas rêver, ça existera. Donc, est-ce que c'est un bien ou un mal? Je ne sais pas. Je ne sais pas mettre des visions, des notions de bien ou de mal sur ces choses-là. Je pense que c'est une évolution du monde avec lequel il va falloir vivre et dans lequel il va falloir essayer de vivre le mieux possible pour les humains. Et c'est pour ça que je dis qu'avec nos visions, nous, de l'architecture et notre capacité à englober des multidisciplines, on peut peut-être servir à quelque chose pour ça.
Pour clore ces entretiens, Odile Deck, on l'a compris, vous êtes très tournée vers l'enseignement. Je pense que ça fait partie des défis majeurs qui vous intéressent le plus. En tant qu'architecte, quels sont les projets, les défis auxquels vous aimeriez vous attaquer dans les années qui viennent? Que ce soit une forme de projet. On l'a dit, vous rêviez de faire des théâtres quand vous étiez petite.
J'ai abandonné l'idée, hein, vous savez, depuis longtemps. Peut-être qu'un jour j'en ferai. Mais eh bien, écoutez, je pense que je n'ai pas un sujet particulier. Tout m'intéresse. Parce que je suis une hyper curieuse et donc tout nouveau sujet que je n'ai pas traité m'intéresse. Et je suis prête à l'affronter et à le traiter et à essayer d'y trouver une solution, y faire une proposition. Donc je n'ai pas un sujet, j'ai tous les sujets du monde.
En ce moment, vous travaillez sur quoi, Odile Deck?
Alors en ce moment, je suis en train de construire une tour à Barcelone d'habitation, au bord de l'eau, ce qui est pas si mal, qui sera finie l'année prochaine. Je suis en train de finir un immeuble de bureau à Paris, à côté du nouveau tribunal à Paris. Je suis en train d'en démarrer deux autres. Je fais une résidence pour personnes âgées. Je construis une maison en Bretagne. Je suis en train de préparer la balle pour une exposition solo show avec des tables et des luminaires. Je suis en train de finir un livre avec des Australiens sur mon travail. Qui est quasiment fini maintenant, qui va sortir, je pense, à la rentrée. Sur quoi je travaille encore?
C'est déjà pas mal déjà.
Plus l'école, c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup, Odile Deck, de vous être prêtée à cet exercice de la voix nue.
Merci Zoé, c'était vraiment passionnant.
Fin de cette rencontre de Zoé Sfez avec Odile Deck. Réalisation Laurent Polleré, prise de son Fabien Gosset, coordination Claire Poinsignon. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.